Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Zéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène pour un long voyage, un tour du monde et sans argent. C'est une thématique, l'argent en ce moment, qui est plutôt dans, je dirais, dans toutes les bouches et toutes les discussions avec tout ce qui se passe et la crise économique. Et justement je trouvais ça super intéressant de faire intervenir quelqu'un où il a essayé d'enlever l'argent en termes de problématique de son voyage et d'essayer de voyager et de se déplacer et de dormir sans argent. Je suis avec Louis Astou, a.k.a. le souffle du panou. Comment ça va, Louis ?
Salut Alex, ça va pas mal et toi ?
Ça va super bien et malheureusement, comme beaucoup de voyageurs à travers le monde, tu étais en plein voyage et tu as été rapatrié en plein cœur de ce voyage. Si je dis pas de bêtises, tu as été rapatrié en France, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais. J'étais au Panama et comme tout le monde, on a cherché à rentrer parce que c'était bizarre comme situation, quoi.
Complètement. Et puis je pense que n'ayant aucune visibilité et que ça a été la décision la plus sage un peu pour tout le monde, on savait pas trop. Tu sais, quand t'es dans une crise comme ça particulière, c'était ce que tout le monde a fait. Même certains étaient même forcés de le faire. Mais avant de justement peut-être décortiquer un peu comment se passe le retour, parce que je pense que ça peut avoir un impact aussi, on n'en parle pas souvent sur ce podcast du retour, alors que pourtant quand on vit des choses super intenses, des fois ça se passe pas toujours bien ou il y a le contre-coup, mais on y reviendra plus tard. Moi la première question justement que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi t'as voulu partir sans argent, sans utiliser argent, ou en tout cas le moins possible, mais je crois que c'est quasiment vraiment pas d'argent.
Ouais, c'est une bonne question. Ça comprend plusieurs choses, mais c'est surtout l'aboutissement d'une réflexion perso, en fait, qui me suit depuis un petit bout de temps sur la place de l'argent dans nos vies.
Ouais.
L'argent, c'est un truc, c'est quand même un peu, ça te prend les tripes, quoi. Dès qu'on en parle, ça vient te chercher. Les gens, quand tu leur commences à leur parler d'argent, souvent ils ont une petite sueur et puis tu sais, ils te regardent avec des grands yeux comme ça. Et je me suis demandé pourquoi, en fait, parce que la base de notre vie, c'est pas spécialement l'argent, c'est plutôt les émotions, tu vois, comme on entretient des relations entre nous.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, quoi de mieux pour le comprendre que d'essayer de vivre sans. En fait, il y avait cette thématique, voilà, de réflexion philosophique pour aller à la rencontre, déjà, de mes propres questions, mais aussi aller découvrir comment ça se passait pour les autres.
Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Tu vois, moi je me suis toujours posé la question de quand tu fais un tour du monde sans argent, c'est que justement tu veux enlever l'argent de l'équation dans tes relations, c'est ça. Sauf que bizarrement, quand tu fais un tour du monde sans argent, l'obsession numéro un, c'est l'argent en fait, c'est d'arriver à te débrouiller sans. Et finalement, tu redonnes la place à l'argent, peut-être centrale, alors qu'à la base tu voulais l'enlever de l'équation. C'est ça où en fait je serais intéressé de savoir comment tu l'as vécu déjà, cette relation avec l'argent, avant de rentrer dans ces échanges et tout ce que tu as pu vivre. Mais quelle place avait l'argent dans ton quotidien et comment tu l'as intégré dans cette équation ?
Ouais, c'est pas mal. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Tour du monde, à la base du projet, c'était l'idée. Mais
ouais.
À cause du Covid, j'ai dû mettre un terme au périple avant d'avoir fait le tour.
Bien sûr.
Et donc, pour revenir à ta question, moi, je suis d'une classe moyenne à la base. Mon père travaille dans le bâtiment, ma mère fait des trucs un peu plus artistiques, mais j'ai été formé à faire de la cuisine, j'ai fait un lycée hôtelier, donc j'ai suivi un cursus scolaire et social qui est assez banal, quoi. Où,
ouais.
Après, je suis rentré dans un modèle de vie sociétaire, voilà, avec les impôts, le boulot, le dodo, et
Et beaucoup donc, de boulot si t'es dans l'hôtellerie en plus.
Ouais, ouais, de gros dodo quand t'es dans l'hôtellerie, ouais.
Ouais, pas peu de dodo, mais beaucoup de boulot, je pense.
Ouais, solide, ouais, solidement. Ouais. Et donc, bah, c'est ça. Moi, ma vie, elle était autour de l'argent. C'est-à-dire que mes besoins étaient assimilés directement à l'argent.
Ouais.
Et donc, il me fallait de l'argent pour dormir, pour payer mon loyer, pour avoir à bouffer, pour payer mon assurance de voiture, et comme, tu vois, comme tout le monde, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, l'argent était vraiment au cœur de ma vie dans ce moment-là.
Mm-hmm.
Et donc, moi, je ne vois pas vraiment les choses de la même façon que toi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voyager sans sous, en fait, ben, l'argent, j'avais décidé de le voir d'un point de vue différent. C'est-à-dire que j'avais décidé de le dissocier de mes besoins. Parce que l'argent et besoins sont intimement liés aujourd'hui.
Ouais.
Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être quelque chose de défini. Quoi, tu vois.
Bien sûr.
On pourrait potentiellement les réussir à les séparer. Quoi.
Complètement.
Et donc, je me suis dit que, en fait, l'intérêt, c'était de regarder la chose sous un aspect relationnel. Comment je pouvais interagir avec les autres
mm-hmm.
pour réussir à assouvir mes besoins primaires qui sont la bouffe, la flotte et un logement, un toit quand il fait froid,
mm-hmm.
Sans avoir l'intermédiaire des sous qui passent par là.
Ok. Et du coup, c'était... Quand tu demandais aux gens, parce que c'était via l'intermédiaire de gens, parce que effectivement, ou en tout cas peut-être de structure, c'était quoi la démarche? C'était salut, bah, écoutez, voilà comment je me, voilà mon concept de voyage. Qu'est-ce que je peux faire en échange d'un repas ou d'un toit? C'était quoi? Ou alors c'était si vous, est-ce que vous pouvez me dépanner pour la nuit? Ou comment c'était en fait?
Il y avait de ça, ouais, tout à fait. Donc j'allais voir les gens pour leur dire, bah, clairement. Leur présenter mon projet, donc j'avais, tu vois, j'avais chopé une phrase un peu d'accroche.
Quelle que c'était ? On va voir si tu la maîtrises bien.
C'était en anglais, tu veux que je te la fasse en anglais ?
Ah bah, please, my man, vas-y, come on.
Alors attends, ça remonte maintenant. Je leur disais Hey guys, how are you? My name is Louis. I'm doing a tour of the world without money and I would like to know if you need any help in your garden or in your restaurant or whatever. And in exchange, I can maybe have some food or. Je me rappelle plus comment je le disais. Je le disais plus comme ça. Je le disais mieux.
Tu disais mieux, mais c'est déjà pas mal. En gros, c'est salut. Voilà comment je me balade et je vous demande quelque chose. Mais en gros, je vous demande quelque chose si je peux vous donner quelque chose en retour. C'est un peu ça.
Ouais, je proposais l'aide avant de demander le service. Tu vois.
Ah, ça c'est une bonne démarche. Ça c'est une bonne démarche. Et t'es parti d'où et t'es arrivé jusqu'à où? Jusqu'au moment où la pandémie t'a cloisonné.
Alors, je suis parti de Québec, Québec City.
Ouais. Ah, ok.
J'ai traversé.
Ouais.
C'est tout le Canada de différentes manières, en stop, en train aussi.
Illégalement ou pas?
Complètement illégalement, sur le toit en plus.
Ouais, tu t'es monté sur les wagons de fret, c'est ça?
Ouais, ouais, mais ça faut pas trop en parler. Ça,
ah d'accord.
Ça reste entre nous. Ouais.
Ça reste, on sait plus, de toute façon, on ne sait pas de qui tu es, on n'a jamais entendu parler de ça.
Merveilleux. peu de chance que je retourne au Canada. Mais, et puis après, je suis arrivé à Vancouver, j'ai construit un vélo recyclé. À partir des trucs que je trouvais dans la déchetterie.
Génial.
Et j'ai descendu jusqu'à Los Angeles. À Los Angeles, j'ai rencontré des types qui...
En vélo ?
Bossaient sur un... Ouais, en vélo, ouais.
Attends, t'es parti du Canada jusqu'à Los Angeles en vélo ?
Ouais, ouais, ouais. Mais ça se fait bien, quand même.
Parce que, alors, sur la carte, ça descend. Mais normalement, quand t'es dessus, c'est plat et ça monte, quand même.
Ouais, il y a du dénivelé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que je me suis dit. Je vais dans le sud, ça va descendre, quand même.
Non, ça marche pas comme ça. Ouais, excuse-moi, t'es allé jusqu'à Los Angeles ?
Et à Los Angeles, bah, du coup, je rencontre un type super sympa. On sympathise un peu. Et lui, il partait avec toute une équipe en Colombie avec un bateau,
Yes.
un voilier. Et il a bien kiffé mon projet. Il m'a dit, bah, écoute, moi, je te prends à bord comme cuistot. Et puis, en échange, t'es nourri, logé. Et tu participes à un projet cinématographique en même temps qu'il faisait avec ce voilier. Donc,
wow.
Top moumoute. Et après, arrivé au Panama, bah, c'est là que le Covid a pété et que j'ai dû mettre un terme à l'aventure.
Et j'aime bien, c'est quand même cette démarche de se dire, je propose avant de demander. Le parcours était quand même sympa et tu étais censé en fait finir. C'était quoi un peu le parcours original? J'imagine que tu vas le reprendre dès que tu peux. Mais c'est Panama, redescendre toute l'Amérique du Sud et après...
Amérique du Sud, je ne savais pas encore si j'allais le faire en vélo parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps et puis tu sais, sans argent,
ça grimpe, hein.
C'est un peu complexe aussi, ça grimpe pas mal, ouais, ouais. Donc je me suis dit peut-être que j'allais le faire, tu vois, en stop, le tour de l'Amérique du Sud, puis après traverser le Pacifique en voilier.
Mm-hmm.
Et à partir de ce moment-là, je ne savais plus trop, tu vois, c'était assez flou.
Ah
mais...
d'accord, c'était les opportunités. C'était les opportunités. Et quand tu démarres à Québec City, finalement, c'est comment tu t'y prends en fait? Tu dis, ok, là, j'ai pas d'argent. J'essaie toujours de rendre les choses concrètes dans l'esprit des gens. Ouais, pour ceux qui ont peut-être envie de le reproduire, ou en tout cas essayer de comprendre dans le quotidien ce que tu as vécu. C'est, ok, j'ai pas d'argent, je suis à Québec City, je fais du pouce. Je sais pas, t'as fait quand pour. J'imagine que c'est du pouce un peu, du stop pour te déplacer. Pour dormir, c'était comment tu faisais? Enfin, comment ça se passait?
Je suis parti de Québec le 5 juin. J'ai rendu mon appart, que j'étais en coloc, avec des potes. J'ai quelques jours, la semaine d'avant, j'ai fait un genre de vide-grenier, tu sais, devant chez moi.
Ouais.
Et j'ai envoyé des posts sur les réseaux sociaux pour dire à tout le monde, venez chercher toutes mes affaires. Je me débarrasse de tout. Donc déjà, t'as cette approche un peu dépossession matérielle qui est quand même assez intense.
Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? De te donner, finalement, t'avais ta vie qui tenait dans un sac, mais littéralement, parce que t'avais tout donné.
Bah, donc vendu.
Ah ouais?
C'était un peu intense quand même, tu sais, de me lâcher de tout. C'est assez apeurant parce qu'on, tu sais, on rattache notre sécurité à nos
besoins
matériels, tu vois. À notre canapé, complètement. À nos coussins, à la télé, tu vois. On est profondément attaché à ces trucs-là. Donc, j'en ai bavé un peu, tu sais, de voir tous ces trucs disparaître devant moi, mais en même temps, j'ai voulu le faire parce que j'avais envie de voir ce que ça allait me faire après. Donc, sur le coup, ça n'a pas été évident. Mais après, ça m'a nourri d'un truc différent, quoi. C'est-à-dire que j'ai appris à être sans avoir, tu vois.
Ah, ça c'est
pas mal. C'est sexy.
C'est une jolie punchline, mais j'adore le concept d'utilisation plutôt que possession, en fait. Tu sais, je suis vraiment pour ça, même dans les voitures, dans tout. Enfin, pourquoi appartenir, tu vois? Pourquoi? Surtout que la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui nous appartient, on l'utilise que de temps en temps, tu vois. Et que finalement, on pourrait produire beaucoup moins et utiliser chacun à ce dont on a réellement besoin, et non pas posséder tout le temps et l'utiliser de temps en temps.
Ouais, carrément. Il y a des petits trucs comme ça marche bien dans les grandes villes en général, où ils font des bibliothèques d'outils, tu sais, où tu viens et puis tu viens chercher une
visseuse
pour une semaine ou pour une journée. Ils font la même chose avec les vélos,
Ça pas mal au Canada?
Ouais, à Québec, ça marche bien. Ouais. À Montréal, je sais pas, j'y suis pas allé, mais à Québec, il y avait des choses comme ça.
Et alors, du coup, une fois que tu as vu tout ta télé, ton canapé, ton petit coussin préféré et ta lampe Ikea qui était certainement aussi super agréable en plein hiver avec 4 mètres de neige, quand tu as vu tout ça partir, il s'est passé quoi après? C'était quoi les next steps?
La next step, ça a été de dire au revoir à tout le monde parce que je m'étais lié d'amitié avec beaucoup de gens là-bas.
Ok, grosse chouille.
Grosse chouille avant de partir. Et puis le lendemain matin, la gueule dans le pâté, le sac à dos sur les épaules, les larmes aux yeux, j'ai commencé à marcher dans la rue de Québec en direction de l'axe principal, en fait, en me dirigeant
vers l'ouest.
Vers l'ouest. Sud. Enfin, j'ai commencé à partir vers Boston au début.
Ah, ok, d'accord.
Et donc, en fait, c'était marrant parce que j'ai tendu le pouce et puis j'avais des larmes aux yeux et j'ai été pris par une petite madame 70 ans, super sympa, qui allait 20 km plus loin. Et alors moi, j'étais en larmes, machin, je lui raconte mon histoire, pas possible. Et elle me dit, bon, écoutez, jeune homme,
on va à Boston.
Jusqu'à la frontière des États-Unis.
C'est pas vrai. Ah, énorme.
Le truc, pas possible. Donc, j'ai fait 4 heures de route avec cette petite madame qui a fait 8 heures de route dans la journée.
Oh non.
Je me dis, vous inquiétez pas, je suis à la retraite, j'ai rien à faire.
Là, tu t'es dit, ça commence bien.
Je me suis dit, bon départ. Bon départ, ouais.
Bon départ, parce que pour un mec qui chiale et qui pue l'alcool, t'avais déjà les étoiles qui étaient alignées pour toi, mon pote. Hein, parce que un peu pomponné, réveillé et tu vois, un peu frais, à mon avis, là, tu t'es dit, là, je vais cartonner.
Ouais, exactement, j'avais cette vision-là aussi. J'arrive à la frontière des États-Unis le soir, donc devant la frontière, elle me lâche à pied.
Ouais.
Alors, je sais pas si t'as déjà essayé de passer la frontière des États-Unis.
À pied, non.
Non, à pied, ne le fais pas.
Ah, d'accord.
Mauvaise idée. Très mauvaise idée.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que j'attendais devant, en fait, que quelqu'un me prenne en stop parce qu'on m'avait dit surtout ne passe pas à pied. Et il y a un flic qui passe, un flic canadien qui vient me voir avec son gros hammer, là, et puis qui me dit qu'est-ce que tu fous là, quoi. Clairement, je lui dis, je cherche à traverser, mais je veux traverser dans une voiture. Et puis on parle un peu, et il me fait, mais je te connais pas, toi. Je lui dis, non. En fait, je ressemblais à un pote à lui, machin, et il m'a pris sous son aile, on a sympathisé, il m'a amené voir Roger qui tenait le passage.
Bill.
Là,
Bill. Ouais. Bill.
Ouais.
Of course.
C'était Roger ou Bill, tu vois, je me rappelle plus. Et puis je suis passé les deux dans le nez, quoi. Ils ont même pas ouvert mon sac, super sympa.
Ah ouais.
Coup de bol. Deuxième coup de bol dans la journée.
Et ça enchaîne, c'était une sacrée putain de première journée. Sauf que dans le concept, T'es à la frontière aux States. T'es censé pas dépenser d'argent.
T'as une gueule de hippie.
Une gueule de hippie. Il est tard. Enfin, là, c'est la nuit. Qu'est-ce que t'as sorti la tente? T'as dormi où?
Juste après la frontière, le soleil commence à se coucher. Je me fais prendre en stop par la deuxième personne du voyage qui est un Amérindien avec
Ok.
des plumes dans les cheveux.
Ça part super bien,
Ah
ça.
ouais, non. Gros délire, hein. Premier jour, gros délire. Mais ils ont tous été un peu comme ça, quoi.
Ah ouais, ah vas-y, attends, mais vas-y, l'Amérindien. Qu'est-ce qui s'est
Et
passé?
l'Amérindien, donc des plumes dans les cheveux, plus de dents dans la bouche, une espèce de camionnette tout défoncée. Et puis le mec était homosexuel. Et alors,
Ah,
il est.
ça.
Jumelé deux trucs un
Ouais,
peu chaud patate, déjà, c'est d'être amérindien et en plus d'être homosexuel.
ouais, aux États-Unis, il devait pas être super bien apprécié, là, hein, malheureusement pour lui.
Non, c'était pas évident, effectivement, mais le mec était adorable. Et donc, il m'a amené dans une petite station-service où j'ai posé ma tente. Il m'a invité chez lui, mais j'avais besoin, c'était le premier jour, j'avais besoin de dormir dans ma tente, décompresser, tu vois, et puis
Bien sûr.
lâcher les émotions un peu too much, quoi. Et donc, je dors derrière la station-service dans ma tente. Je vais faire du dumpster diving, donc la récup de bouffe dans la poubelle. Et je trouve
Ah.
un petit sac de patates super bien, en bon état, impeccable. Donc je me suis fait des petites patates sautées avec du thym qui traînait à côté de ma tente, un peu de sel, un peu de poivre.
Ah.
Et je me suis endormi comme ça, quoi.
Attends, tu peux nous reparler de ce concept, dumpster diving?
Ouais, dumpster diving. Alors, comment on dit ça en français? C'est un peu comme du glanage ou tu vois, aller sauter dans les poubelles, quoi.
Ouais, c'est ça, tu vas aller chercher en fait ce qui a été jeté, mais qui au final est jeté par la société de consommation, mais pas par la consommation naturelle, on va dire qu'on ne la jetterait pas à ce moment-là, puisque un emballage qui est abîmé, un emballage ou même une date de péremption, on va dire, légale dépassée, ils sont obligés de le jeter, sauf que c'est totalement consommable. Et du coup, alors en France, ils ont tendance à mettre énormément de produits chimiques sur ces aliments. Puisque même si maintenant c'est en train de changer avec tout ce qui se passe, mais le problème c'est qu'au début, ben, les gens y donnaient, et il y a un con qui a eu la bonne idée de porter plainte parce qu'il était tombé malade après qu'il y ait une donation, et forcément ben, ils ont dû se protéger. Mais dans tous les pays ça se fait pas, surtout un peu dans les stations-service, ils n'ont pas que ça à foutre, ou même les magasins, et du coup t'as pu vraiment aller choper un truc, et ça tu l'as fait régulièrement avant de reprendre le
Ouais, bah.
parcours.
J'étais devenu un sniper de la poubelle, quoi. Enfin, dès qu'il y avait une poubelle qui était dans un coin, je checkais à l'intérieur. Mais t'as raison, en fait, c'est un tiers de notre nourriture qui part, un tiers de la nourriture produite mondiale qui part à la poubelle. Donc c'est pas rien quand même, c'est 33%. Et ça, c'était aussi une des démarches de ce voyage. Donc
Ouais.
moi, comme je t'ai dit, j'étais cuisinier à la base. Et moi, mon déclic pour la nature, pour la sauvegarde de notre planète, il est venu parce qu'en cuisine, on balance une quantité incroyable de bouffe.
Ah
Que
ouais.
ce soit dans le gastro, dans le touristique, tu vois, la collectivité, peu importe, tu vois, l'intérêt qui est mis en avant, c'est un intérêt économique, et donc la gestion du vivant qui est derrière n'est pas mise en valeur, et donc on va te balancer des plaques de bouffe à la poubelle. Moi, ça a été comme ça que je me suis dit, non, mais il y a un truc qui est pas normal, là, c'est pas possible. Et donc le but du jeu, du voyage, c'était aussi de mettre ça en avant via le dumpster diving. Donc j'allais choper des trucs dans les poubelles, tu vois, je le postais sur Instagram, j'en parlais un petit peu autour de moi, je faisais des
Génial.
Skype. Et donc j'essayais de sensibiliser les gens un petit peu à cette aberration.
Bien sûr. Et tu sais, là, j'aimerais qu'on arrive sur l'aspect psychologique et social de cette pratique. La première fois que tu l'as fait et quand tu le faisais, est-ce que tu le faisais finalement devant les gens ou est-ce que tu le faisais, c'était compliqué à assumer finalement au grand jour, pour dire ça comme ça. Pourquoi? Bah parce que bah, je pense que n'importe qui va comprendre que le fait d'avoir le regard de l'autre, où on met la main dans la poubelle, où on n'est plus du tout vu, enfin on est vu un peu comme un paria, comme quelqu'un qui... Voilà.
Parasite.
Ouais, c'est ça, un parasite qui va piocher dans les poubelles, qui a foiré sa vie, qui est complètement au crochet de la société, etc. Et qui n'a pas du tout finalement la dimension sociale en tête. Comment tu l'as géré ça? Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Ah, la première chose qui me vient à l'esprit avant que ça me que je l'oublie, c'est la vision des gens, en fait. Donc c'est évident qu'il y a certaines personnes qui peuvent être outrées par ce genre de pratique, mais la plupart du temps c'est des regards de pitié ou de solidarité.
Ok.
Et donc je trouve ça très révélateur de la nature humaine, en fait. Voilà, les regards de critique négative, j'en ai eu quand même très peu. Et la plupart du temps, voilà, c'était de la bienveillance qui était dégagée des yeux des gens, quoi.
Ah, ok, donc il y avait vraiment ce côté mince. Il a l'air d'être plutôt normalement constitué. Il a pas l'air d'être un alcoolique ou un drogue addict. Et pourtant, il en est
Exactement.
arrivé là. Ok.
Exactement.
Et en...
Donc c'est
Ouais,
c'était des
excuse-moi.
belles rencontres aussi parce que c'était l'opportunité, tu vois, pour certaines personnes de bah de donner un coup de main, tu vois, ou juste d'offrir un peu d'attention. Souvent, tu sais, les
Ah.
gens qui sont dans la rue, c'est ce qu'ils demandent, quoi. Et moi, j'étais pas dans cette quête-là parce que je suis quelqu'un de très sociable, j'aime beaucoup parler aux gens, mais j'ai eu des expériences de nombreuses fois où des gens venaient me voir et puis commençaient à discuter un petit peu pour créer de la relation, quoi. C'était très beau. Et puis d'un point de vue émotionnel, perso, comment ça s'est passé? Bah, au début, je me cachais. Je faisais ça la nuit quasiment, ou
Ouais.
j'essayais vraiment d'être discret. Comme tu dis, c'était pas évident à digérer, quoi. Moi, je viens, tu vois, je suis un mec lambda, mettre les mains dans les poubelles, il y a quand même des croyances à briser, quoi. C'est pas évident pour
Clairement.
mettre sa tête dans une poubelle,
Ça sent
aller,
pas super bon non plus, hein.
ça sent pas la rose. Non, non, c'était pas évident, mais ces croyances, j'ai réussi à les briser petit à petit en me légitimant de ces actions par le fait que derrière ce geste, il y a tout une espèce d'action politique, en fait. Tu vois, je m'engage, moi, à mettre en avant une erreur sociétaire, quoi.
Bien sûr.
Et donc, bah, ça s'est légitimisé petit à petit au fur et à mesure du temps. Et puis, à la fin, je le faisais au grand jour, aux yeux de tout le monde. Et puis, quand quelqu'un venait me critiquer négativement, je dialoguais, j'expliquais le pourquoi,
Merci.
du comment. Je ne veux pas prétendre à être un éveilleur de conscience, parce que c'est un peu large comme terme. Mais je pense que j'ai participé, j'ai semé des petites graines dans les esprits des gens par rapport à ça, quoi.
Et c'est intéressant, ceux qui venaient, qui t'alpaguaient un peu négativement, ils repartaient plutôt positivement ou ils étaient restés un petit peu bloqués sur leur truc?
Bon, bah, c'est quand même assez compliqué de changer tout un schéma mental en quelques phrases, mais je pense que j'arrivais quand même à les apaiser un peu, parce que je baissais mon ton de voix. Et puis, tu sais, quand quelqu'un t'agresse et que tu lui renvoies pas son agressivité, en général, l'agressivité se calme un petit peu, quoi.
Complètement.
Et donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que ça dépendait des gens, mais en général, je leur expliquais ma situation avec bienveillance, et ils repartaient
Ouais,
un
je
peu
vois.
un peu un peu gêné, tu vois, ou
Ouais,
un
genre,
peu.
ouais. Et
Mais bon,
c'est...
c'est rigolo, hein. Moi, je me
Non,
fourrais la
mais
gueule, hein.
c'est un... Ouais. Ah, voilà. Il a fait sa journée, il a gueulé sur quelqu'un, il est passé pour un con. C'est quoi les... Si on devait faire une petite infographie, tu sais, ces petits documents joliment mis en page avec les 5 règles d'or pour pouvoir faire du dumpster diving. Devenir le master en dumpster diving pour tous ceux qui ont envie de voyager, donc ça plutôt dans les pays je dirais riches, parce que c'est en général on gâche la nourriture plus dans les pays riches, dans les pays occidentaux. Donc c'est là où c'est plus facile à faire. Moi pour info, je l'ai fait aussi quand j'étais en Australie. Quand j'étais en Australie en van, et effectivement j'ai été on m'a initié à ça. C'était aussi, tu vois, quand tu commences à retrouver des pièces de viande qui coûte un bras et en fait qui viennent d'être jetés parce que encore une fois voilà la date de péremption ou un coup sur la barquette et que tu commences à te faire des barbacks de malade avec ça et que tu commences à voir les choses autrement en fait, tu commences à te dire voilà il y a des choses qui vont pas, il y a des et voilà moi j'ai trouvé ça c'était intéressant et c'était intéressant pour moi psychologiquement comme tu sais, c'est pour ça que je te pose la question de mettre la main dans la poubelle, de rentrer dans la poubelle, de prendre le temps de se dire je peux être vu comme ça. Parce que finalement ça coûte un bras, qu'à ce moment j'ai pas beaucoup d'argent, que finalement si je le prends pas, ça va être perdu à tout jamais. Et, tu vois, c'était vachement intéressant aussi pour ça.
Mais t'as raison, parce que là, tu mets en avant un point qui est super, super fort. C'est que souvent, quand il y a des changements sociaux, et notamment le changement de la transition environnementale qu'on est en train de vivre, il faut vraiment sortir de sa zone de confort sociale. C'est-à-dire que, tu vois, au début, acheter bio, t'étais critiqué, on te jugeait, on disait que t'étais un sale hippie qui suce des cailloux et qui mange que du quinoa, tu vois, en gros.
Ouais.
Et petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Les gens maintenant comprennent que, bah, manger bio, c'est parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sol, pour la planète, pour la terre.
Bien
Et
sûr.
en gros, c'est bon pour tout le monde parce qu'on est tous dans le même bateau.
Complètement.
Et là, mettre les mains dans les poubelles, ça peut être considéré comme quelque chose, tu vois, qui est inacceptable. Mais en le faisant, bah, tu vas créer un certain accord entre tes valeurs et puis tes actions, quoi.
Ah, puis ça se trouve, tu sais, c'est ce que tu es en train de dire, c'est peut-être que on va désensibiliser les gens à ce geste-là, et que finalement, ben peut-être que d'ici 3, 4, 5 ans, ce sera des choses qui seront vues, chacun sera libre de le faire sans être jugé, et qu'au contraire, on sera vu comme des personnes qui cherchent à faire attention au gaspillage, en fait, tu vois. Donc, et ça commence toujours, comme tu dis, par des gens qui arrivent à la machette, en gros, pour défricher un peu des idées poussiéreuses. Mais ouais. Je suis assez d'accord. Et du coup, si on arrive à cette infographie incroyable de tous les gens qui ont envie de voyager dans des pays en plus qui coûtent un bras, surtout quand on est backpacker, donc tous les pays un peu occidentaux, et qui se disent « ça, c'est une super idée, ça !» Comment on fait ? C'est quoi les 4-5 règles d'or ?
Je te dirais, la première règle, ça serait d'y aller avec un pote qui l'a déjà fait. Parce que y aller tout seul, tu vas te sentir mal, tu vas angoisser, tu vas pas passer un bon moment, et si tu te fais choper, tu vas être en panique.
Ok. Donc ça, c'est la première. Essayer de se faire un petit entraînement avec un mec qui en a déjà fait. Mais
fais ta poubelle.
Vu le nombre de personnes qui l'a fait, ça risque d'être compliqué de trouver un pote qui l'a déjà fait. Donc, c'est quoi la règle numéro 2?
Alors, la règle numéro 2, mettre des gants.
Ah, ouais, c'est con, mais c'est bien ça.
C'est pratique. C'est pratique parce que des fois, tu trouves des trucs qui sont pas chouettes. Hein, c'est des poubelles.
Ouais.
Et ça peut y avoir des trucs coupants aussi. Alors moi, j'avais des gants, tu sais, un peu épais.
Un peu jardin, pour faire du jardinage ou choses comme ça.
Exactement, ouais. Ouais, ouais. Qui sont lavables parce que bon, tant qu'on y est, autant qu'on prenne pas des gants jetables à chaque fois. Quoi.
Ouais.
Et la règle numéro 3, je te dirais, ça serait... très important, ça serait d'ouvrir les sacs, de pas les percer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un métier, c'est-à-dire ils doivent nettoyer les poubelles, ils doivent sortir les sacs des poubelles. Il y a tout un monde autour de ça, et souvent c'est des gens qui ont pas spécialement besoin que tu leur rajoutes des problèmes ou de la merde sur le dos. Et donc c'est important d'être respectueux et c'est de bien ouvrir le sac. Tu vois, quand il y a un nœud, bah tu prends du temps pour ouvrir le sac, tu l'ouvres, tu regardes dedans, tu enlèves pas tout ce qu'il y a dedans et tu le mets à côté. Tu fais attention à bien gérer ton truc et après tu refermes le sac. Tu vois.
Ouais, je vois. Voilà. Intéressant. Est-ce que aussi, en termes de localisation, est-ce que tu vas voir certains commerces en particulier? C'est comment tu choisis les bennes ou les poubelles? C'est plutôt les supermarchés? C'est plutôt, au contraire, eux, ils sont vigilants, il y a des caméras, j'en sais rien.
Ouais.
Je sais pas.
Alors après, là où j'étais aux États-Unis et au Canada, il y avait différentes enseignes. Il y en avait qui avaient des fois qui avaient des poubelles accessibles, d'autres qui n'en avaient pas.
Ouais.
Là, c'est au plaisir de l'auditeur. C'est-à-dire que si tu veux y aller quand il y a des barrières, c'est libre à toi de faire de la désobéissance civile, de prendre un certain risque juridique,
ouais.
Mais d'appuyer un peu la valeur de ton engagement de transition, quoi. Après, tu peux aussi le faire uniquement dans les poubelles qui sont, on va dire, plus libres d'accès, où tu as moins de surveillance et moins de barbelés. Mais ça reste, en France, je ne suis pas sûr, mais il me semble que ça reste quand même quelque chose d'illégal. Après, c'était quoi ta question ?
La question, c'était justement quel commerce, quelle poubelle tu choisissais d'aller checker, en fait, pour pouvoir avoir... en gros, quand tu vas choisir tel ou tel type de structure, tu es sûr d'avoir des bonnes petites trouvailles. C'est quoi ? C'est les supermarchés en général, les stations-service, ouais. C'est quoi un peu la liste, tu vois ? La liste de jackpot.
La liste de jackpot, moi c'était les Biocoop, parce que bon, j'aime bien manger sainement. Et donc,
il y en avait au Canada ?
Ouais, il y avait des genres je me rappelle plus, la vie claire, un peu dans cet esprit-là.
Il y en a aussi là-bas, ok, très bien. Ouais. Comme quoi.
Bah, c'est pas le même nom, là, mais c'est dans le même délire.
Ouais, je vois.
Et donc j'essayais de faire ça en priorité. Mais après ça dépend de où tu vis, quoi, parce que tu vas venir faire ceux qui sont autour de chez toi, j'imagine, toi.
Ouais.
Et quand tu voyages, bah c'est ceux que t'as l'opportunité de croiser, parce que après il y a des noms d'enseignes aux États-Unis dont je me rappelle plus, mais qui étaient souvent jackpot, et ça c'est une expérience que tu crées, quoi.
Ah bah ça, c'est pas sympa de pas balancer des noms, mais déjà le mec il fait du dumpster diving bio, ça c'est stylé quand même. Ah non, moi je chope que du bio dans les poubelles. Il y a pas de, tu vois, ça.
C'est tofu fumé.
C'est tofu fumé, voilà, exactement. ok, ça c'était la petite parenthèse, mais en fait c'est intéressant aussi de se dire que quand tu veux manger et que t'as pas d'argent parce que tu voyages comme ça, t'es pas que obligé d'aller quémander de l'argent auprès des restaurants ou des gens. Tu peux aussi te débrouiller par toi-même et assumer cette façon de voyager autrement. Et ça c'est important de le préciser. J'aimerais qu'on revienne au moment. Oui.
Je te balance juste une autre règle que je considère super importante.
Ouais.
C'est demander, en fait.
Ah.
C'est que moi, ce que je faisais avant d'aller derrière et d'aller aux poubelles, c'est je rentrais dans le magasin, je demandais à l'accueil à parler à un responsable et je lui présentais mon engagement. Je disais, voilà, je suis un voyageur, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire dans le monde et je lutte contre ça. Je voudrais savoir si vous, il y a des produits que vous allez jeter. Et je t'avouerai que sur un ratio, ça marchait une fois sur cinq, quoi. Ce qui n'est pas négligeable.
Ah, une fois sur cinq, c'est pas mal hein, quand même. 20% de réussite, c'est pas pourri, ok. C'est bon à savoir ça. Et la plupart, et les autres, ils disaient non, j'ai pas le droit ou quelque chose comme ça.
Ouais, voilà, il y a plusieurs réponses qui étaient bien avant, mais souvent c'était le truc un peu législatif. Ouais.
Ah, ok, d'accord. Génial. Bon à savoir. Du coup, on est dans cette tente. Tu viens de te faire des petites patates avec du thym. Comment s'est passé après la suite de l'aventure?
Ah. Je me suis réveillé le matin, frais comme un gardon, prêt à partir sur la route. Et en fait, les premières semaines, tout le long du voyage, je me suis lancé dans une espèce de quête philosophique, mais il y avait aussi une espèce de quête spirituelle. Donc, j'ai décidé de me lâcher un petit peu, d'être dans le lâcher prise de tout ce qui pouvait me passer par la tête, de toute la pression sociale qu'on nous impose. Et donc, je partais avec le cœur libre. Et c'est marrant parce que quand tu pars dans ce genre d'esprit-là, tu parlais d'alignement d'étoiles, mais c'est un truc qui est palpable, quoi. T'as, ah ouais. t'as vraiment. Enfin, moi, j'avais
t'es dans
l'impression
le flow
d'avoir.
T'es dans le flow permanent, en fait. Ce qu'on appelle le flow,
incroyable.
C'est cet état de. En fait, t'as l'impression que tes mains sont guidées quand t'es en train de créer. T'as l'impression que ton cerveau te donne toutes les solutions quand tu cherches quand il y a un problème qui est à toi. Et là, en fait, de lâcher prise au maximum, tu dis qu'en fait, t'avais juste à te laisser porter. Tu sentais presque que t'étais porté par quelque chose, c'est ça?
Tout à fait, ouais. Il y avait de l'abondance autour de moi, que ce soit pour la bouffe, les relations, le déplacement. C'était les doigts dans les poches et les mains dans le nez, quoi. On était sur les
étoiles. Les doigts dans les poches et les mains dans le nez, exactement. Et concrètement, parce que ça, tu sais, je pense que c'est palpable. C'est comme quand t'es ce sentiment de flotter. Tu l'as que quand t'arrives à te jeter en chute libre d'un avion ou en base jump ou etc. Et bien, il faut jeter quand même pour avoir ce sentiment de ouais. flotter. Et là, ce sentiment d'être dans le flow, d'avoir l'impression d'être porté par quelque chose, j'aimerais que tu le décrives concrètement comment ça se passait. Parce que autant toi, dans ton esprit, c'est très clair, et dans le mien aussi, parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, autant quand on ne l'a pas vécu, on demande, enfin ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une mamie qui s'arrête et qui va te proposer de traverser la frontière. Non mais ça veut dire, tu vois? Et que comme par hasard, il va y avoir un mec à la frontière qui va t'emmener voir l'autre douanier. Non mais arrête. Non mais tu vois, c'est concrètement, ça s'est passé comment dans les grandes lignes? C'est comme tu dis, c'est jour d'après.
Ouais.
Tu vois, ça s'enchaînait comment?
Ça s'enchaînait. Le terme flow est bien adapté parce que. À partir du moment où en fait j'étais dans la peur,
ouais.
où j'avais peur de la situation, le
peur,
flow s'arrêtait.
Donc peur de pas trouver à manger, de peur de pas se loger, de peur de pas se déplacer, c'est ça.
Exactement. Et à partir du moment où j'étais dans la foi, la croyance, tu sais,
la conviction d'y arriver,
que tout allait bien se passer, tu vois. Eh ben, ça se passait comme ça. Et en fait, c'était super profond parce que ça vient de chercher à l'intérieur de toi. Et comme tu dis, tu as l'impression d'être sur un nuage où tout ce dont tu as besoin arrive à toi sans que tu aies besoin de le chercher. C'est lourd de sens pour moi parce que ça représente un petit peu, je pense, comment on devrait tous vivre en tant qu'humain. Tu sais, on ne devrait pas se contraindre émotionnellement à vivre, tu vois. Bon, après il y a tout un débat là autour de ça sur la vie sociétale et puis sur nos besoins et tout ça. Mais si, à partir du moment où on se laisse porter un peu par ce qui nous est cher, que ça soit un art, la sculpture, un métier ou le voyage, on s'accorde. Alors tu peux délirer, hein, tu peux dire on s'accorde avec les étoiles, on s'accorde les chakras ou c'est juste que notre présence sur Terre est au bon endroit au bon moment, quoi.
Exactement.
C'est fort. Ouais.
Et j'adore ce concept parce qu'il est, en fait, c'est quand même assez dingue. Encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vécu, à plus ou moins. Ça peut être l'espace d'une minute, d'une heure, d'une journée ou d'un an, en fonction de comment tu t'es laissé aller, justement. Mais c'est quand même assez fou de se dire, en fait, si t'as pas peur et que tu fonces et que tu te poses pas la question et que t'es convaincu que tu vas y arriver. Eh ben en fait la vie elle te donne ça. Et que si tu as peur de pas y arriver, la vie elle te donne ça.
Exactement.
Et, Et en fait, tu dis, mais en fait, la vie, attends, ça peut pas être si simple. Parce que je regarde la télé, on me dit qu'il y a des meurtres, on me dit qu'il y a du bordel. Donc, arrête, potentiellement, c'est pas ça.
Tu
Oui,
trouves ma gueule.
potentiellement, c'est pas ça. On se fout un peu de ta gueule et on essaie justement de te faire croire que ça fait peur. Pour que, du coup, t'aies la peur et que ça se passe pas aussi bien, en fait. C'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Mais pour ceux qui l'ont pas vécu, comment t'as fait, en fait, toi? J'aimerais que tu dises, ça a été quoi ta démarche pour arriver à ce niveau de lâcher prise? Parce que même si c'est que peut-être dans la tête, ou peut-être que ça a été de faire des certaines actions, je sais pas, mais ça a été quoi ton cheminement? Comment t'as réussi à atteindre ce stade-là?
Du début.
Ouais.
Allez, du début, bah moi j'ai eu du pot parce que quand j'étais gamin, je vivais dans un petit bled perdu dans les Cévennes. Et
Jusque-là, c'est plutôt sympa.
c'était plutôt sexy, ouais. Les cigales, tu vois, les trucs un peu arides, les maisons en pierre, les petites rivières qui s'assèchent pendant l'été. Un endroit magnifique, mais par contre, c'était loin de tout et les transports, les réseaux sociaux, là, pas les réseaux sociaux, les bus en gros, quoi.
Transport public, ouais.
Enfin, merci. Les transports publics étaient difficilement accessibles. Et donc j'ai commencé assez jeune à faire du stop pour aller voir mes potes dans le village d'à côté. Et en fait, au début, je faisais du stop pour me déplacer. Donc ça avait un intérêt physique, quoi.
Complètement.
Et petit à petit, plus je faisais du stop, plus je découvrais des histoires. C'est-à-dire que les gens, bah, ils avaient un gamin de 12 ans qui était dans leur voiture, qui était là, prêt, avec une oreille attentive. Et ben, vas-y, que je te raconte plein de choses, parce que quand t'as un gamin, t'as envie de l'inspirer, t'as envie de lui partager tes passions, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Ça m'a fait grandir comme jamais. Et je suis tombé amoureux un petit peu des histoires, des rencontres. Et donc, c'est par ce biais-là que j'ai continué après. À mes 17 piges, j'ai fait un tour de France en stop. Et puis, petit à petit, je suis sorti de ma zone de confort, en fait, sans spécialement le chercher, quoi. C'est venu par moi-même, naturellement, quoi. Mais si je devais donner un conseil à quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là de vivre dans un petit village perdu au fin fond des Cévennes, je pense que c'est très important de commencer petit, en fait. Parce que si tu commences gros tout de suite, tu vas te confronter à une erreur qui risque de t'empêcher de remonter à cheval après, quoi. C'est-à-dire que il faut faire un petit truc, tu vois. Va te faire la Sèvre Niortaise en vélo, va te faire un petit tour des garrigues, ou tu vois, un petit
Et tu
machin, quoi.
penses que du coup ce lâcher prise total, qui est du coup un peu la clé pour être dans le flow, il se fait via le voyage et surtout il se fait comment? Parce que tu vois, il y en a plein qui ont voyagé, il y en a plein qui ont voyagé en stop. Comment on fait pour se débarrasser de ses peurs et de ses doutes?
Ah. Bah écoute, je sais pas, lis la Bible.
C'est
Non, je déconne.
vrai que je l'ai pas lu, je devrais. Non, mais
Moi.
je trouve que c'est intéressant en fait parce que c'est des états que tu peux toucher et que en fait du jour en fait j'aime bien ce côté où moi je vais donner ma version si tu me donneras la tienne, mais en gros pour te débarrasser de la peur et du doute comme tu dis il faut être convaincu de alors faut peut-être que comme tu dis il y en a c'est convaincu que Dieu existe et très bien c'est un truc permanent, mais ça peut être aussi être convaincu que en fait tu vas arriver là où tu as envie d'arriver et que finalement t'es convaincu que tu vas y arriver, mais le comment tu vas y arriver n'est pas important. Et à partir du moment où tu n'attaches plus d'importance à la manière, mais c'est juste la finalité, et que tu es convaincu qu'à un moment tu vas y arriver, avec plus ou moins de temps, avec plus ou moins de style, avec plus ou moins de complications, eh ben en fait, tu te poses plus de problème parce que souvent, on s'attache à la manière. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Quand on dit est-ce que je vais y arriver, finalement, le je vais y arriver, c'est le temps qu'on y met, l'argent qu'on va y dépenser et l'énergie qu'on va y dépenser aussi. Et que quand tout ça tu l'enlèves, tout à coup tu t'aperçois que il n'y a plus de peur en fait. Parce que j'y arriverai quand j'y arriverai. Et du coup si tu n'as plus peur, tu t'aperçois en fait que tu t'y arrives beaucoup plus vite que tu l'aurais imaginé. Ça c'est un peu ma version pour se débarrasser de la peur, tu vois, et du doute.
Je suis bien d'accord avec toi. Et je te rajouterai un truc à ça, c'est qu'à partir du moment où tu t'inquiètes plus pour l'avenir, tu vis dans le présent. Et donc cette pleine conscience du présent, elle crée ce côté un peu magique de la vie, tu vois. Parce que quand tu es toujours dans la projection ou dans le passé, tu n'arrives pas à vivre pleinement l'instant présent. Et c'est troublant, parce que tu te perds, ton esprit n'est pas là. Il n'est pas avec tes mains qui touchent ton assiette, qui... Tu vois, peu importe, quoi, mais
Je
tu
comprends
comprends ce
pas.
que je...
Tu sais qu'il y a pas longtemps, et là, attention, c'est peut-être de la philosophie personnelle de comptoir, mais je sais plus, j'étais en train de me balader, et il y a une phrase qui m'est venue. J'étais au bord de la rivière, et je me suis dit, mais en fait, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est prendre du plaisir à faire ce que tu es en train de faire sans penser ni être impatient à la prochaine chose que tu vas faire.
Magnifique.
Dans le sens où, à chaque fois, je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'étais impatient de, ou que je, le jour où j'aurai ça, le jour où j'arriverai là, le jour où j'aurai accompli ça, ou j'aurai fini ça, en fait, tu fais que passer à côté de ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais que, en fait, gâcher du temps qui, en fait, aurait pu être déjà en train d'être kiffant et de prendre du plaisir, alors qu'au moment où tu vas y arriver, à ce fameux truc que t'arrêtes pas d'être pressé d'y arriver, eh ben, ça va peut-être durer un jour, une heure, et en fait, t'as gâché peut-être x10 de temps qui aurait pu être aussi kiffant. Et souvent, c'est ce doute, ce doute de se dire tout ce trajet que tu mets, en fait, et on en revient toujours à ce fameux adage. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin pour y aller, mais ça s'applique à beaucoup de choses. Et pour finir sur ce côté du flow, ça t'est venu au bout de combien de temps, en fait? Tu vois, à partir de combien de... Est-ce que, du coup, dès le premier jour où ça t'a mis dans le flow direct, ou est-ce que ça a été croissant? Est-ce que c'est reparti peut-être à un moment donné?
Je t'avoue que c'est même venu un peu avant, en fait. C'est même venu un peu avant que je parte, parce que je m'étais préparé quand même pour ce voyage émotionnellement depuis plusieurs mois. Alors, j'avais fait des trucs qui étaient en rapport à ça, c'est-à-dire qu'émotionnellement, je m'étais préparé, j'avais fait des stages de clown, j'avais fait des stages de conte, tu vois, et j'étais rentré dans ce délire-là un peu des histoires de partage. Et ma prof de conte, qui est une vieille dame de 80 balais qui vit à Québec, m'a raconté justement une anecdote là-dessus. C'est qu'elle, pour vivre dans cet état, elle balançait un souhait, tu vois, comme une petite flèche qui partait à l'horizon, elle envoyait dans les nuages et elle l'oubliait, tu vois. Elle essayait de plus y penser après. Et en fait, l'univers conspirait pour elle et lui a amené en fait le retour de ce qu'elle avait demandé sans qu'elle ait besoin de calculer le temps, un temps défini pour ça, quoi.
Puissant. Génial. Ouais, non, génial. Et j'aimerais qu'on revienne dans cette aventure. Quand tu dis ça s'est très bien enchaîné, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que là, ça a commencé avec des petites anecdotes sympas, hein. Entre la petite vieille qui t'amène à la frontière, le douanier qui t'emmène à son autre pote douanier, le Première Nation gay qui t'invite, c'est quand même stylé, quand même, tout ça.
Ouais, pas mal.
Vas-y, c'est quoi les autres punchlines? Envoie, là. Fais-moi rêver.
J'en ai eu des troublantes aussi, genre.
Ça, on aime bien ça aussi.
Ouais, je sais. C'est pas mal. Du côté de Boston, je me suis fait prendre en stop par un gars sur le bord de l'autoroute qui a fait un frein à main, qui s'est arrêté à l'arrache en plein milieu. Il y avait une urgence dans cette situation où soit je décidais de pas monter dans la voiture, mais vu que ça faisait un petit moment que j'attendais, j'ai décidé le contraire. Mais il fallait que je monte très rapidement. Normalement, quand tu fais du stop, tu parles au mec, tu lui dis tu vas où, tu checkes un peu son visage, tu vois. Et là, j'ai pas vraiment eu le temps de checker ça, quoi.
Attends, le mec s'arrête en frein à main à côté de toi, genre.
Fou furieux. Là-bas, en même temps, j'étais dans un spot, on m'avait mis là. Des fois, on balance dans des spots, c'est pas très adapté, en fait, à faire du stop.
Bien sûr.
Et donc, j'ai grimpé. Et donc, je balance mon sac à l'arrière de son pick-up. Je monte côté passager. Le mec démarre, il trace. Et à ce moment-là, j'ai tourné mon visage vers lui et j'ai vu qu'il avait un flingue posé sur sa. Enfin, il avait la main posée sur son flingue et son flingue sur sa cuisse droite, tu vois. Et qu'il avait
une
froide. Ouais, truc de fou furieux, mec.
Viens, je m'arrête, je mets un coup de frein à main. Est-ce que tu peux monter dans ma voiture pour que je te tue? Ben, pas de problème, mec, je mets mon sac à l'arrière de ton pick-up et on y va.
Avec joie. Donc, tu vois, le flow dont tu parlais.
Ouais.
Et que je défendais philosophiquement depuis le début du voyage. Là, je l'ai remis en doute l'espace d'une microseconde, tu vois. Et puis, le temps a ralenti parce que j'étais dans un moment où j'avais une architecture de réflexion hyper rapide, tu vois, et à côté de moi, on n'avait pas encore échangé un mot avec le mec. Il s'est passé une ou deux secondes, tu vois, ou pendant ces deux secondes, j'ai tissé un raisonnement dans mon esprit pas possible pour me dire est-ce que je continue de croire dans l'univers et dans la foi de la vie et j'incarne cette foi, tu vois, par ma façon d'être, ou est-ce que je panique tout de suite et je m'inquiète tout de suite de la situation. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser la foi, la confiance. Et je lui ai ouvertement demandé avec une chaleureuse assurance pourquoi il avait un flingue sur son
sur sa cuisse. Sur sa cuisse, voilà. Ça me gratte.
Chacun se délire. Et en fait, il m'a dit qu'il avait peur de moi. Et c'était marrant de voir ça parce qu'en fait, les rôles se sont inversés. C'était moi qui devenais le mec dangereux, tu vois. Et c'était à moi de le rassurer. Et donc, ça a été assez fort et troublant parce que, en sortant de cette bagnole, je me suis rendu compte que le mec, en fait, était assez jeune, qu'il venait d'une famille de militaires, et que moi, je lui ai apporté, je lui ai semé la graine de la confiance dans la vie, tu vois, à mon échelle. Hein. Mais notre discussion a été forte et pleine de sens, quoi.
Et, attends, parce que du coup, en gros, le mec, il est complètement antithétique, le mec, parce que il s'arrête pour te dépanner, mais il est flip de toi.
Mais c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique.
Ouais, bien sûr.
Le mec, il veut t'aider, mais au fond de lui, il a une peur incroyable de t'aider, quoi. Et je pense qu'il y en a énormément, des gens comme ça, tu sais, qui aimeraient aider, mais ils ont peur. Ils se disent, putain, j'aimerais aider, mais je peux pas, parce que à la télé, ils nous disent que tout le monde est méchant, et puis je peux pas me permettre de me mettre dans cette situation. Et lui, il a osé. Incroyable. Ouais, il était jeune.
Et est-ce que t'as eu d'autres rencontres comme ça qui t'ont marqué parce que par leur générosité, par leur côté cocasse ou par leur côté flippant ou leur côté dur, enfin tu vois, il y a des gens qui te viennent en tête?
Ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres pendant ce voyage. Un truc qui m'est venu en tête quand tu m'as posé la question, c'est encore une personne qui m'a pris en stop, mais là on parle que de la première partie du voyage,
hein,
jusqu'à Vancouver. Qui était une femme donc, qui vivait dans un camion un peu de hippie
ouais.
style années 70
ouais.
et qui m'a demandé ce que je faisais ce soir. Je lui ai dit bah, ce soir je dors dans ma tente. Elle m'a proposé de venir dans un festival avec elle, perdu dans la nature.
Ça s'appelle
un Rainbow Festival, quoi.
Ouais.
Tu parlais de ça?
J'ai entendu un peu parler de ça, je me souviens plus trop le concept, mais tu vas nous le rappeler.
Bon, moi, voilà, j'avais entendu parler de ça aussi, j'y étais jamais allé. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 70 aux États-Unis, de hippies qui se rencontraient pendant une semaine dans un lieu perdu dans la nature pour danser tout nu autour d'un feu, manger des champignons et crier à la lune, tu vois.
Ouais. Ouais. C'est, la punchline est très vendeuse.
Voilà, excellent. Et donc, les mecs, en fait, ont préservé un peu, ont sauvegardé leur tradition de hippies et... Ouais. Et on continue à faire ça d'un point de vue national, d'un point de vue département, enfin de state, là, des États. Ils en font un dans chaque État, ils en font un national. Et maintenant, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des festivals où c'est sans argent. Alors tu y vas et c'est tout départagé. Et le but du jeu, c'est voilà. Bon. Après, bon, le côté tu te défonces la tronche, c'est chacun voit les choses comme il veut, quoi. Mais. Mais moi, j'aimais bien le délire, bienveillance et sans argent. Et donc, elle m'a invité à faire ce truc perdu dans la campa. Là, et je suis resté là-bas une soirée. J'ai dansé. Bon, j'étais pas tout nu. J'ai dansé autour du feu, moi aussi. Et puis,
je suis assez déçu que t'aies pas joué le jeu jusqu'au bout. C'est là où je vois, toi, c'est un peu dommage.
Ouais, non, pas
elle
terrible.
Elle est quand même, tu vois, elle t'a quand même invité dans son délire. T'aurais pu respecter les coutumes, les us et coutumes, tu vois ce que je veux dire?
Les us et coutumes, ouais. La prochaine fois.
Est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres personnes comme ça qui t'ont marqué? Peut-être, c'est quoi la personne qui t'a peut-être le plus apprise? Et qu'est-ce que c'est que t'as apprise?
Je pense que c'est Lynx, une gonzesse que j'ai rencontrée.
Il y a une personne qui s'appelle Lynx. Ouais. Putain, c'est trop stylé ça.
C'est grave stylé. Grave stylé.
Je m'appelle Lynx.
Et attention parce que.
Et toi, moi c'est Jaguar. Allez, est-ce que c'est une première nation ou pas? Non, c'est pas une première nation.
Non, c'est pas une première nation.
En plus, ok.
Mais grande madame, je pense qu'elle doit avoir pas loin de 65 ans, un truc comme ça.
Ouais.
Et depuis qu'elle a 25 piges, elle vit en autarcie avec la nature.
Wow.
C'est-à-dire qu'elle fait ses vêtements à base d'animaux qu'elle a chassés. Des feux en friction.
Attends, mais je vois très bien qui c'est.
Ah oui, grande madame.
Comment c'est que tu l'as rencontrée? Non, mais si, elle fait des stages justement de survie et d'autonomie,
ouais.
C'est ça?
Oui, tout à fait, ouais.
Ah oui, ah non mais attends, elle chasse elle-même, elle est en super connexion à la nature. Attends, mais j'ai déjà, parce que pendant un moment je voulais faire un stage de survie justement, et j'étais tombé sur elle. Comment tu l'as rencontrée?
Oh, c'était volontaire, je lui ai envoyé un mail.
Ah ok, donc elle est en autonomie avec la nature, mais elle a quand même un mail. Ouais, d'accord.
Ah, c'est sa fille qui lui répond.
Ah ok.
Et qui organise les stages et des trucs comme ça. Mais elle a quand même une, tu vois, elle a quand même une espèce de.
Mais
de
je crois qu'il y a une part de
cabane grotte, ouais. Tu vois un peu.
Mais je crois qu'elle a une partie de son année où elle est quand même un peu en civilisation. Non, c'est qu'une partie de son année où elle est vraiment en full autonomie, non?
Ouais. Elle en fait, elle s'est engagée à partager ce principe de rapport à la nature. Et donc en tant que militante pour ça. Elle fait quand même, tu vois, des trajets où elle vient en France pour initier des gens. Elle va dans différents endroits des États-Unis. Et donc, elle a quand même, tu vois, une démarche politique derrière ça, quoi.
D'accord. Et tu l'avais, elle, tu avais trouvé où? Tu l'as rencontrée où?
Bah, je suis venu la voir directement en vélo. C'était après avoir construit mon vélo sur l'île de Vancouver. J'ai tracé, puis je suis allé jusqu'à Twisp. C'est un petit bled perdu dans l'état de Washington, qui est complètement à l'ouest des États-Unis, au
Ouais.
nord-ouest. C'était juste avant l'hiver. J'ai monté mon premier pic à vélo à 1500 mètres et j'ai dormi sous la neige avec rien dans le ventre. Et puis j'ai fini par arriver chez elle après une semaine de route. Et quand je suis arrivé chez elle, bah, elle a décidé de m'accepter comme volontaire, en fait. Donc, j'ai coupé du bois pendant 3 jours pour elle, pour tout son hiver, tu vois. Et en échange, bah, elle m'a formé. On a passé une semaine dans la nature ensemble à tanner de la peau de
Waouh.
saumon, à aller taper des cailloux, faire de la musique avec des flûtes, faire des feux en friction, enfin, des trucs pas possibles, quoi. Ça m'a vraiment troublé parce qu'elle avait vraiment une perception de celle-là qui était pointue. C'était une maître, tu vois. Et on pourrait appeler ça une maître Jedi ou ce que tu veux, là.
Et au-delà de du côté un peu visuel et folklorique de la chose, qu'est-ce que ça t'a appris cette rencontre?
Ça m'a appris, je pense, la plus belle règle de toute ma vie, qui a été aussi l'un des facteurs de mon retour en France. Je vais te l'expliquer comment ça s'est passé, cette prise de conscience. C'était assez fort. C'était que on a commencé à apprendre à faire des feux en friction. Donc, tu
Ouais.
utilises deux bâtons que tu frottes l'un contre l'autre le plus vite possible pour que ça crée en fait la braise qui va venir allumer ton feu. Tu vas faire un petit nid de brindilles et tu vas déposer cette braise. Tu vas
Yes.
souffler dessus et ça va créer ce feu, toi. Et en fait, c'est extrêmement compliqué d'arriver à faire ça tout seul. Il faut être
Ah.
plusieurs. Et donc, il faut se relayer sur le frottement des bâtons. Après un certain temps d'expérience, tu arrives à le faire tout seul. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de pratique. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'énergie que tu dépenses pour faire un feu, en
Ouais.
pleine nature, si on revient à notre instinct de base, c'est-à-dire animal primitif qui vit dans la nature, qui mange de la viande, des baies sauvages
Ouais.
et qui fait son feu, tu vois, ben, on a besoin des uns des autres. Et c'est primordial comme raisonnement parce que survivre dans la nature tout seul, tu peux, mais tu
Ouais.
vas pas tenir longtemps. En fait, si tu veux survivre dans la nature, mais tu vas avoir besoin de quelqu'un pour faire la popote pendant que toi tu fais ton feu. Il y en a un
Yes.
autre qui va aller chercher du bois, il y en a un autre qui va aller chasser. Et si t'as pas tout ça, ben, tu vas devoir dépenser la même quantité d'énergie pour faire toutes ces choses-là. Et ça va être absolument impossible si tu mesures 1,45 m et que t'es fin
Comme
comme une
moi.
allumette. Oui, je vais pas le dire, mais
Ah, c'est ça. Athlétique, on dit athlétique, on dit athlétique. Et c'est non, mais tu vois, c'est fou. C'est t'es en train de me dire que la prise de conscience de dire que finalement, la collectivité, c'est le sens même de un peu de l'humain, et que finalement, c'est là où tu te révèles, c'est là où la vie elle est la plus douce et la plus agréable. C'est en allant te paumer au fin fond d'une forêt et être justement en autonomie, en autarcie. Je trouve
Tout
que
à fait.
la boucle elle est assez magique quand même.
Elle l'est, elle l'est. Et c'est pour ça que ça a donné beaucoup de sens à mon voyage. Moi qui étais parti en quête de moi, je me suis rendu compte que j'avais avant tout besoin des autres. Et comme on l'a tous, tu vois, avec humilité, et c'est important de se le rappeler, je pense que c'est vraiment très important de le savoir.
Tu sais que tu devrais faire un film et tu sais comment je trouverais qu'il devrait s'appeler? Il devrait s'appeler Into the Wild. Ça serait vraiment bien. C'est une idée qui me
Mais
passe comme
oui,
ça.
c'est vrai que tu as cette punchline, ouais. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Bah oui, parce que c'est vrai, c'est pas que d'un point de vue technique pour faire le feu, c'est que d'un point de vue émotionnel, on a aussi
Exactement.
besoin des uns des autres. C'est très difficile d'être indépendant émotionnellement, de s'aimer soi-même et de se suffire à soi-même. On a besoin de quelqu'un pour nous aimer, pour nous dire que notre coupe de cheveux est bien faite, que on est bien rasé, tu vois,
Je pense que
pour s'aimer, quoi.
au-delà de ça, c'est que tu sais, je trouve que quand tu es avec des gens, 1 plus 1 égale 3. Attention, c'est Jean-Claude Van Damme fois 10, mais 1 plus 1 égale 11. Mais c'est un peu, tu vois, c'est ce côté où en fait, tu sais pas pourquoi, tu sors des blagues ou tu fais des trucs qui te plaisent, c'est cool. Mais quand tu le fais avec quelqu'un d'autre, c'est pas 2 fois plus cool, potentiellement c'est 3 fois plus cool parce que ça crée un espèce de partage, d'exaltation, d'échange
Tout
de
à fait.
connaissances. Tu vois, enfin, il n'y a pas que genre je m'amuse à faire telle chose, je vais le faire à ma façon, sauf que l'autre l'a à faire à sa façon, et nos deux façons combinées en créent une autre, et c'est ça qui est, je trouve assez fou, et ce que je trouve assez fou dans ce que tu dis, c'est qu'en plus ça se voit que t'as pas du tout réfléchi à Into the Wild et ce côté-là, mais c'est vraiment en fait, t'étais parti un peu dans cette même veine que ce mec-là, être autonome, être indépendant, à peu avoir d'argent, à juste filer un coup de main. Et au final, t'en es arrivé, à travers tes rencontres, dans ton cheminement personnel, à cette même conclusion, tu vois. Et tu vois, finalement, c'est là où tu peux dire que c'est un peu universel. C'est juste de se dire, souvent tu pars en voyage, surtout en solo, surtout comme ça, pour apprendre à te challenger, pour apprendre à mieux te connaître. Et finalement, parce que t'en as marre d'une certaine façon, un peu de la façon dont t'interagis avec ta propre société. C'est un peu ça aussi. Et en fait, ce voyage-là te fait revenir dans ta société pour la voir différemment, en fait. Et pour la réapprécier, peut-être comme on n'arrive peut-être pas à le faire depuis le début.
Vraiment.
Et je trouve ça vraiment, pour le coup, chambé. Et justement, ça me fait arriver à cette question, c'est comment tu décrirais à la troisième personne, et l'exercice est un peu chelou, je sais, mais le Louis avant de partir, avant de vivre cette expérience, et le Louis d'aujourd'hui, c'est-à-dire, le Louis d'avant de partir, il était comme ça, et puis il avait ça, et puis il pensait ça, et aujourd'hui, le Louis d'aujourd'hui, il est beau gosse, intelligent, sympa. Non, je regarde. Oh non, mais plutôt un peu d'auto-promo à la fin, enfin, je veux dire, c'est aussi
c'est
fait
sympa,
pour ça.
C'est sympa. Bah écoute, avant de partir, je pense que j'étais quelqu'un de...
Et non,
de
tu vois, très... tu ne fais pas l'exercice qui va bien, c'est
ah,
à la troisième
putain,
personne.
À la troisième, bordel.
Pourtant,
je l'ai bien fait,
hein, j'ai bien expliqué quand même, mais tu vois.
Tu veux vraiment que je te...
Je veux, parce que je pense qu'il y a un détachement qui est intéressant dans cet exercice.
Ok, je vais essayer alors. Écoute, avant de partir, Louis, c'était quelqu'un, je pense, de très arrogant.
Ah.
Qui l'est encore un peu, mais qui, en ayant pris conscience de cette interconnexion et de ses limites, a réussi à percevoir l'importance de l'autre et à vivre non pas uniquement pour ses petits plaisirs personnels, mais aussi en prenant conscience que le bonheur, ça passe par le don de soi. Alors, ça fait un petit peu... Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, tout ça.
Et comme
mais
quoi,
ouais, c'est ça.
Comme quoi, d'une tirade que dont tout le monde rigole, en fait, tu dis, mais en fait, mec, c'était ça, en fait.
Ah, dans le fond, il a raison dans ce qu'il dit. C'est fandard parce qu'il a la gueule qui va avec. Mais ouais. Le Louis d'avant, il était pas spécialement conscient du fait que on est détaché d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'on a des corps différents, on a des mentales différents, mais qu'on est tous interconnectés, que ça d'un point de vue de nos besoins, mais aussi d'un point de vue émotionnel et même plus spirituel, si tu veux qu'on plonge là-dedans, mais ça c'est un dada qui plaît pas à tout le monde. Et ouais, c'est ça. Ouais.
Intéressant. Et le Louis d'aujourd'hui, il est vraiment focus là-dessus. Il est comment le Louis d'aujourd'hui? Il est bien dans ses pompes, il est...
Ouais, il est mieux dans ses pompes, il croit dans ses rêves, il a confiance dans la réalité de sa vie, il est prêt à se remettre en question et à briser des croyances, il est plus ouvert à l'autre et il a beaucoup de projets.
Putain, c'est quand même pas mal en termes d'update,
ouais.
ça a eu son petit effet quand même le voyage, on va pas se le cacher.
Il y a du mieux.
Avant de finir ce podcast, il y a des questions que j'aime bien poser, mais avant de les poser... J'aimerais encore avoir, parce que j'ai l'impression que tu en as un sacré kilo d'anecdotes, est-ce que tu peux nous faire un petit peu triper ou nous toucher, tu sais, avec des petites anecdotes où tu te dis, putain, c'est beau, quoi. T'en as deux, trois sous le coude ou pas, comme ça, qui viennent?
Ouais, j'en ai quelques-unes.
Vas-y.
Je vais t'en faire une poétique qui va te toucher un peu.
Ah, ça, j'aime bien quand on me touche.
Bon, j'étais sur un voilier, je longeais la côte pacifique des États-Unis. On était sur la route depuis des jours et des jours. Il faut te dire que quand t'es sur un voilier, tu fais des quarts, c'est-à-dire que tu peux pas toujours tenir la barre. Il y a des moments où il y en a qui doivent aller se reposer et il y en a d'autres qui observent l'horizon pour être sûr que t'as pas un gros paquebot qui va venir éclater ta coque. Et ce moment-là, j'étais de quart. C'était la nuit, la pleine lune, des étoiles de partout, pas un bruit, un silence magnifique, un petit vent, une petite brise qui poussait les voiles à l'arrière. On avançait tranquillement. C'était magique. Je mets mes écouteurs, je me balance un petit Debussy, tu vois, petit piano, machin, sympathique. Bon, j'écoute un peu de tout, mais là, le contexte était adapté à ça. Et je me rapproche de la proue. Enfin, tranquillement, j'avance sur le devant du bateau. Et au moment où j'avance sur le devant du bateau, en observant tranquillement la brisure du bateau sur les flots qui créaient des belles ondulations, je vois arriver sur le côté, à côté de moi, comme une espèce d'ombre fluorescente qui passe et qui glisse et qui re-rentre dans les abysses. Et là, en me tournant sur ma droite, j'en vois une autre qui fait pareil. Et encore une, et encore une. Et petit à petit, elle se rapprochait de plus en plus du bateau et se rapprochait de plus en plus de la surface. Et je me suis rendu compte que c'était des dauphins qui avaient, en fait, avec leur passage, ils activaient les fluorescences qui sont contenues dans les
microplancton.
Merci, le microplancton. Et ça créait des traînées fluorescentes tout au long du passage des dauphins qui sautaient devant moi pendant plusieurs minutes, avec le Debussy dans les oreilles, la pleine lune, les étoiles, la petite larme à l'œil, en me disant « Putain, ma vie est trop belle
!» Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Et est-ce que tu en aurais une autre qui nous fasse rigoler ? Putain, j'ai l'impression que le mec, il a tellement de story que si je peux lui demander ce que je veux, quoi.
Une qui fait rigoler. Ah oui, pas mal, ouais. Pendant le Covid, le début du Covid, j'étais sur ce même bateau. On était un peu comme des cons parce que on avait pris le large au moment où ils avaient annoncé la fermeture de toutes les frontières. Et nous, on était en mer.
Alors nous, on n'a plus rien à manger, les mecs.
clairement, ça se profilait un peu comme ça, quoi. Et donc, on s'est dit, on n'a pas le droit d'arriver dans les ports légalement, mais on peut quand même débarquer sur des îles désertes ou sur des plages où il n'y a personne, quoi.
Ah, ok.
Et donc, ce qu'on a fait, on est arrivé de temps en temps sur des petites plages où on allait pêcher au harpon, on allait cueillir nos noix de coco. Moi, je faisais du lait de coco, on faisait sécher la coco. Il y avait des fruits un petit peu sympas, mais des fruits qu'on ne connaissait pas, tu vois. Et moi, je ne sais pas, par les bananes, les goyaves, encore les goyaves, je ne suis pas sûr. Et les fruits tropicaux, je ne suis pas spécialement un spécialiste.
Normal.
Normal. Et donc là, je vois des petites baies sympathiques, tu vois, oranges, bien sexy, tu vois.
Bon,
elles avaient l'air sympas, tu vois. Et donc, ce que je fais, c'est que j'en regarde une, je l'observe, je la sens, je me fie à mes sens, et à l'odeur, ça sentait un peu le kiwi, tu vois. Je me suis dit, kiwi. Sympa,
kiwi, quoi. C'est bien. Kiwi, c'est bien.
Kiwi, c'est sexy. Et j'en gobe une.
Ah, d'accord. Il n'y a pas un petit Wikipédia, un petit truc, non?
Ah non, pas d'internet, rien du tout. Walou, t'es perdu. Hein.
Ouais.
Et donc, j'en gobe une. Et j'aurais pas dû, en fait.
Après, tu voyais tout violet ou comment ça s'est passé?
En fait, ça m'a irrité toute la gorge, tu vois, et j'ai pas pu bouffer de la journée. J'ai passé la nuit aux toilettes. Voilà.
Ah, bon, ça,
c'est une anecdote mignonne, tu vois.
C'est une anecdote mignonne, mais quand même, faut chauffer quand même. Cette baie-là, qui a une couleur super vive et très fluorescente et orange, à mon avis, ça doit être comestible, ça.
C'est l'odeur du kiwi qui ça m'a tenté, tu vois.
Et en fait, c'est là où tu n'avais pas vu, mais il y avait un kiwitier ou un arbre à kiwi
juste à côté. Juste à côté. Ouais.
Et qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Putain, génial. Il va falloir qu'on termine ce podcast à un moment donné, même si je pense qu'on pourrait rester des heures et des heures. Si je te passe les clés de la DeLorean pour aller revivre un seul moment de tout ce voyage, qui n'est pas celui sûr que t'es en train de faire un quart et que t'es en train de voir les petits dauphins qui te lâchent des 2-3 petits planctons fluorescents, ouais, sur leur passage. Quel moment ce serait? Quel moment t'aimerais revivre?
Oh, je pense que je retournerai au Panama embrasser la belle colombienne que j'ai quittée pour la France.
Oh là 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 là, ça c'est sympa. Et en plus, il y a de l'amour dans ton histoire, ça. C'est fou. Si, dernière question, si tu devais résumer cette aventure en une phrase de ta création, une punchline ou une citation, ça serait laquelle?
C'est quelque chose d'assez simple. Je dirais, la vie, elle vaut mieux d'être vécue quand on est dans l'être que dans l'avoir.
Celle-là est magique. Ouais. Celle-là est très sympa. Tu devrais te la noter direct parce que potentiellement... non, elle est gravée, c'est ça?
Elle est gravée, ouais.
Elle est gravée. Écoute Louis, je te remercie énormément pour ton temps, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé toutes ces belles valeurs. Évidemment, internaute, avant de nous quitter, tu peux aller retrouver Louis, aka le souffle du panou. Et d'ailleurs, avant de nous quitter, c'est pourquoi le souffle du panou? J'ai même pas demandé. Le souffle du panou, c'est quoi?
Il y a plusieurs versions, je vais te faire la plus courte, c'est le souffle, l'inspiration,
ouais.
Du panou. Panou, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous. On est très déresponsabilisés dans notre société et moi j'ai envie de me responsabiliser, donc je pense que c'est important de partager cette vague de critiques et d'inspiration à la responsabilisation.
Le souffle du panou. Et ben ça, en plus, putain, il y a une vraie histoire derrière. Il y a tous les liens dans la description du podcast, comme d'habitude, internaute, si tu veux voir à quoi il ressemble, si tu veux voir à quoi ressemblait son aventure, si tu veux en savoir plus aussi sur son état d'esprit et tous les contes et les histoires qu'il a racontées. Évidemment, les petites dédicaces en story Ces derniers temps, j'en reçois des super en train de peindre, en train de faire des
Ah, c'est
trucs,
bon, ça.
en train de faire un footing en plein dans des trails, dans des endroits incroyables. Donc, n'hésite pas à nous faire des petites dédicaces sur Instagram, ça nous fera toujours très plaisir. Louis, moi, je te souhaite une belle future aventure pour si t'as envie de la reprendre et dès que tu peux la reprendre. Et je te dis à très vite et encore merci pour tout.
Merci Alex. Salut.